Vous écoutez France Culture.
Les nouveaux chemins de la connaissance, tous les jours, de 10h à 11h et sur Internet, 24h sur 24, sont réalisés cette semaine par François Connac, avec Jean-Frédéric Salla Technique et préparés par Avril Ventura, Geneviève Méric, Mathilde Unger, Camille Lugan et Adèle Van Rett. Adèle, justement, que vous retrouverez tout à l'heure, comme tous les jours, à 10h50 pour le journal des nouveaux chemins. Et c'est de folie que nous allons parler cette semaine dans les nouveaux chemins de la connaissance. La folie, le plus vif de nos dangers, dit Foucault, et notre vérité peut-être la plus proche. Demain, mardi, c'est Evelyne Grossman qui enseigne la littérature à Paris 7 qui viendra vous parler d'Antonin Artaud. Mercredi, Carole Desbarra évoquera ce qu'elle appelle la raison en feu, après Foucault d'ailleurs, ou la fascination du cinéma pour la folie. Jeudi, le philosophe Nicolas Grimaldi évoquera une démence ordinaire, son dernier livre aux presses universitaires de France. Vendredi enfin, nous finirons la semaine comme on aurait dû la commencer, avec Jean-Claude Margolin, c'est-à-dire avec Erasme et son éloge de la folie. Mais avant d'examiner la folie pour elle-même, avant de prendre le risque avec la folie de penser autrement selon des normes qui déjouent la raison, il est essentiel, à titre liminaire, d'évoquer les distinctions et la figure cardinale de Michel Foucault, qui sut dans son histoire de la folie à l'âge classique ne pas réduire la folie à la déraison et qui, à cet égard, nous servira de viatique toute la semaine. Et c'est Judith Revel, maître de conférences à Paris 1, auteur entre autres d'un très utile dictionnaire Foucault chez Ellipse, qui nous servira de guide aujourd'hui en terre foucaldienne. Comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi? Si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés, de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Mais quoi ? Ce sont des fous. Et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples.
À partir de 1650, on peut dire, je crois, que la folie et la raison sont séparées. Sont séparés dans les choses, sont séparés dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie devient possible.
Bonjour Judith Revel.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Avec vous commence donc cette semaine sur la folie, avec vous et avec Michel Foucault et avec un texte de Descartes que j'ai lu au début de cette émission, un extrait de la première des 6 méditations métaphysiques de Descartes, un texte resté fameux de Descartes, comme souvent d'ailleurs avec Descartes, il lègue à ses successeurs le soin de régler les impasses qu'il a déposées dans ses textes, en particulier ici, le moment où Descartes excommunie au fond les fous du cercle de la raison. La pensée ne peut être folle, il interdit en un sens à la pensée d'être insensée. Foucault a beaucoup parlé de ce texte dans son histoire de la folie à l'âge classique, en faisant en un sens peut-être la matrice d'une démarche qui consistait à enfermer la folie, pratiquer l'internement, on va revenir là-dessus. Je voudrais qu'on parte de ce paradoxe typiquement foucaldien qui est que, en excluant les fous, à la façon de Descartes, on a fondé une démarche qui fait de la folie un objet de connaissance. Alors comment comprendre ce double mouvement finalement d'exclusion de la folie, d'excommunication de la folie et en même temps d'intégration de la folie dans la sphère de la raison, de la connaissance, Judith Revel.
Je pense que c'est une idée qui est fondamentale chez Foucault pour la folie, et ça sera en réalité quelque chose qu'on retrouvera par la suite comme une sorte de matrice sur la prison, sur la clinique, sur les institutions disciplinaires. C'est-à-dire l'idée que finalement, pour pouvoir contrôler, identifier et gérer ce qui se présente comme l'autre de soi, l'autre du même, il faut lui assigner un lieu physique, il faut lui assigner un lieu institutionnel, et il faut lui assigner un lieu dans l'institution du savoir, c'est-à-dire pouvoir produire des discours, le construire comme objet. Et finalement, ce que dit Foucault à propos de la folie, c'est que il y a un moment, et ce moment, c'est, alors il le repère symboliquement, même si la date n'est pas si précise que ça, avec la naissance de l'hôpital général en 1656, il y a un moment où on définit les fous comme une population cohérente, où on leur assigne un lieu qui est effectivement celui le lieu de l'hôpital, qui est encore un hôpital très différent de celui qu'on connaît, enfin, par rapport à celui qu'on connaît aujourd'hui, et qui permet le développement d'un savoir, de pratiques et de discours, qui sont des discours qui vont effectivement identifier la folie en tant que telle. Ce qui n'était pas le cas avant, en réalité, où la folie innervait beaucoup plus le tissu social, circulait et avait un statut qui était infiniment moins défini. Alors, ce rapport, c'est un rapport qui est à la fois un rapport d'exclusion hors du savoir rationnel, un rapport d'exclusion physique, spatiale, puisque finalement les fous prennent la place, dit Foucault, des léproseries, des lieux où les lépreux ont été enfermés pendant le Moyen-Âge. Et ce rapport d'exclusion à la fois géographique et épistémologique permet le développement d'un savoir positif.
Alors justement, le développement d'un savoir positif qui est en même temps conçu au départ comme une négation, c'est-à-dire vous avez parlé d'identification de la folie, l'identification de la folie que stigmatise Foucault hein, dans son histoire de la folie est une identification qui fait reposer la folie sur le contraire de la raison, en somme. C'est-à-dire que la folie est identifiée comme des raisons. La production d'un savoir positif autour de la folie à l'âge classique naît de cette idée que, en somme, il y a la raison et que la raison se doit, en un sens, de prendre le pouvoir sur ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire la déraison.
Oui, je crois qu'il est très juste de rappeler le titre entier de l'édition, la première édition du livre de l'histoire de la folie en 61, qui a changé par la suite. L'édition de 72 a changé parce que c'était histoire de la folie, folie et déraison à l'âge classique. Et ce rapport entre folie et déraison, ou entre raison et déraison, il était fondamental. C'était l'idée que finalement, le rapport entre le même et l'autre, entre ce qu'on est et la différence absolue par rapport à ce qu'on est, est un rapport absolument dialectique. C'est-à-dire que ce qui ne me ressemble pas en réalité m'inquiète. Et que la seule manière
c'est
de
faire. C'est un non-moi, en fait. Oui, ce qui est une façon de réduire le non-moi à moi.
Absolument. Et que la seule manière de faire taire l'inquiétude que ce non-moi ou cet autre suscite en moi, c'est de le nommer et de le faire dériver indirectement de moi. Parce que finalement, la déraison, c'est l'autre de la raison, c'est son génitif, c'est sa différence absolue. Et en même temps, c'est ce sur quoi je m'arroge le droit de dire ou de faire des choses.
Pascal, les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. Et cet autre texte de Dostoïevski dans le journal d'un écrivain, ce n'est pas en enfermant son voisin qu'on se convainc de son propre bon sens. Il faut faire l'histoire de cet autre tour de folie, de cet autre tour par lequel les hommes, dans le geste de raison souveraine qui enferme leur voisin, communiquent et se reconnaissent à travers le langage sans merci de la non-folie. Retrouver le moment de cette conjuration avant qu'elle n'ait été définitivement établie dans le règne de la vérité, avant qu'elle n'ait été ranimée par le lyrisme de la protestation. Tâcher de rejoindre dans l'histoire ce degré zéro de l'histoire de la folie où elle est expérience indifférenciée, expérience non partagée du partage lui-même. D'écrire dès l'origine de sa courbure cet autre tout qui, de part et d'autre de son geste, laisse retomber, chose désormais extérieure, sourde à tout échange et comme morte l'une à l'autre, la raison et la folie. Judith Revel, l'ambition de Michel Foucault est-elle de s'en prendre à la raison ? au sens où la raison aurait cette prétention presque totalitaire, au fond, à exclure, c'est-à-dire inclure dans ses propres procédures tout ce qui n'est pas elle, ou bien est-elle l'ambition de Michel Foucault de penser de façon positive la folie avant sa capture par le savoir, par un savoir rationnel?
Je pense que c'est la grande ambiguïté du livre de Foucault, et c'est ce qui lui a été reproché à la fois par les historiens et par les philosophes. Je pense à la polémique avec Jacques Derrida. C'est-à-dire que finalement, le livre a été écrit par Foucault lorsqu'il était encore en Suède à la fin des années 50, sur un fond qui était un fond d'histoire de la médecine qu'il avait trouvé à Uppsala, dans son séjour qu'il qualifiait de longue nuit suédoise. C'est 20 000 volumes, 21 000 volumes sur l'histoire de la médecine. Donc d'un côté, c'est un livre d'histoire qui rend compte de la construction de l'objet folie sur une périodisation qui est extrêmement précise. Et en même temps, il y a chez Foucault en permanence, et c'est une contradiction, mais qu'il assume comme contradiction, l'idée qu'il faudrait pouvoir, il le dit lui-même dans le livre, rendre la folie à elle-même, ou alors faire l'histoire de la folie d'avant l'histoire de la folie, ou alors faire rendre la folie d'avant ce partage raison des raisons qui pourtant constitue la folie comme objet.
Et cette histoire de la folie d'avant l'histoire de la folie, Foucault l'a conduit de deux manières, à la fois en pensant la folie médiévale ou renaissante comme telle, le privilège peut-être de la folie, ou les privilèges de la folie, ce dont la folie est capable et dont la raison par définition en un sens se prive par l'usage de ses propres procédures, et également dans ce qu'il dit de la littérature dont on reparlera plus tard, Judith Revel.
Alors ce qui est très ambigu, c'est qu'on ne revient pas en arrière dans l'histoire. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que alors pour la petite histoire, le livre a été publié chez Plon en 61 parce que Philippe Ariès avait lu le livre et qu'il avait été absolument fasciné à la fois par l'analyse historique, par le grand style baroque de Foucault, etc., etc., et par la nouveauté du propos. Et en même temps, l'idée qu'il y a chez Foucault quelque chose qui est de l'ordre d'une fascination presque prémoderne pour la folie, l'insistant sur la nef des fous, les figures d'avant la Renaissance, etc., etc. C'est comme si chez Foucault, il y avait la possibilité de sauter en dehors de son temps. Et ça, c'est très contradictoire par rapport au type d'analyse que Foucault livre, qui est un type d'analyse qui est extrêmement lié à une activité de périodisation précise, historique. Alors, il y a ça, et puis il y a la littérature dont vous parliez, qui est un thème extrêmement important chez Foucault dans les années 60, qui sera totalement abandonné à partir de 1970, mais il y a une quantité absolument énorme de textes sur la littérature à la même époque. Et quand on s'aperçoit, quand on recense les figures littéraires auxquelles Foucault s'intéresse à l'époque, je pense à tous les textes qui ont été repris dans l'édition dédiée écrite chez Gallimard, on s'aperçoit que systématiquement, les cas littéraires auxquels il s'intéresse croisent deux registres qui sont, quelle que soit la période d'appartenance de ces auteurs, qui croise le registre de l'écriture, de l'expérience littéraire, et le registre de la folie. Alors c'est Artaud, c'est Kafka,
Nerval, Swift.
Bien sûr, c'est Swift. Et puis alors, ce sont des expériences plus précises encore, c'est Brisset, c'est Wolfson, c'est Roussel. C'est-à-dire, on s'approche non pas de la folie en général, mais de quelque chose qui sera un thème très fort chez Foucault à la fin des années 60 et qui sera aussi un thème partagé par Gilles Deleuze, par exemple, et qui est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on croise le registre de l'expérience littéraire et le registre de la schizophrénie. Et là, on s'aperçoit qu'il y a comme un continent qui fascine Foucault, mais encore une fois, il n'est pas tout seul, et qui est qu'il y aurait à l'œuvre dans l'expérience de l'écriture croisée avec celle de la folie, mais c'est Nietzsche aussi, bien entendu, comme une expérience de la vérité. Alors, c'est très contradictoire avec le propos qui consiste à dire « je vais reconstituer historiquement la manière dont s'est constitué un objet, je vais reconstituer une périodisation épistémologique, je vais reconstituer ce qu'il appellera une épistémée avec les mots et les choses ».
On a l'essence de la transdisciplinarité foucaldienne,
absolument,
c'est-à-dire le moment
absolument.
Où à la fois Foucault fait œuvre, j'allais dire objective, d'historien des idées, et où en même temps il élabore à la faveur de son travail et d'une objectivité prétendue. D'ailleurs, ça n'est pas critiquer Foucault que de dire qu'il prétend à l'objectivité, sans pour autant y verser complètement, puisqu'il y a dans ce travail également une problématisation qui n'appartient qu'à lui,
de la folie
comme telle.
Oui, et en même temps, je pense que le grand reproche qui lui a été fait à l'époque, et c'est finalement le reproche que lui fait Derrida, c'est vous avez un discours qui est un discours pleinement positiviste, en réalité. C'est-à-dire que vous constituez un discours qui est un discours de savoir sur des objets, vous en rendez compte historiquement, et en même temps, comment pouvez-vous prétendre à l'intérieur de ce discours faire une histoire d'avant l'histoire. Les termes sont ceux de Derrida. Hein.
Là où l'argument de Derrida porte, enfin l'argument de Derrida peut porter, d'ailleurs là on pourra revenir sur le débat Derrida-Foucault. En somme, Derrida est plus indulgent que Foucault avec Descartes et avec le texte de Descartes. Mais là où Derrida n'a peut-être pas tort, c'est qu'il y a toujours chez Foucault ce sentiment étrange que Foucault permet de penser des choses extravagantes. Il ouvre la possibilité de véritablement, comme il le dit lui-même, de penser autrement. Et il a une façon de le dire, j'allais dire même jusque dans sa voix, Judith Revel, qui semble contredire cette ambition. C'est-à-dire qu'il a une présentation, c'est le plus classique des penseurs vertigineux, Michel Foucault. On va entendre tout de suite un autre extrait de sa voix, justement, dans lequel, revenant sur son histoire de la folie, il explique comment s'est opéré le mélange des genres dans les hôpitaux sous le vocable des têtes perdues. Écoutez la voix de Michel Foucault.
À partir de 1656-57, s'est créé à Paris ce qu'on appelait l'hôpital général, qui était une sorte de maison, de grande maison de réclusion, d'internement, de renfermement, où on trouvait mêlés des chômeurs, des mendiants, des agités de toutes sortes, des fils de famille débauchés, des pères qui mangeaient le capital et puis qui s'en allaient, des libertins, des homosexuels, des protestants. Et tout ce monde, qui était, pour des raisons diverses, refusé et exclu par la société, tout ce monde comprenait également des gens qui étaient fous. Et on trouve sur les registres d'internement de Bicêtre et de la Salpêtrière, qui étaient les deux principales maisons de l'hôpital général, on trouve sur ces registres, qui sont encore actuellement à la bibliothèque de l'Arsenal, aux archives de la Bastille, des mentions comme celle-ci. Un tel tête perdue. Tête perdue, qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, quand on a quelques recoupements, on peut s'apercevoir que c'était ou bien quelqu'un qui était effectivement un fou et qui avait pu être soigné comme tel dans sa famille, par exemple, ou bien il était tête perdu parce qu'il était débauché, ou il était tête perdu parce qu'il écrivait des romans érotiques, ou il était tête perdu eh bien, parce qu'il était protestant et qu'il refusait de renier sa religion.
Oui.
C'est-à-dire que certains malades, pour des raisons qui sont assez difficilement définissables, continuent à être traités comme malades, et puis alors tous les autres sont pris à l'intérieur d'une sorte de grand mouvement de ségrégation qui les abolit comme malades et ne les définit que comme exclus.
Judith Revel est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance à l'orée d'une semaine sur la folie, c'est de Michel Foucault. Qui d'autre pour commencer cette semaine que nous parlons aujourd'hui? Michel Foucault, dont l'histoire de la folie à l'âge classique est un texte majeur et dont on ne dira jamais assez d'ailleurs à quel point il est bien écrit. Judith Revel, on vient d'entendre, donc je voudrais juste rester un instant là-dessus pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissaient pas la voix de Michel Foucault ou qui peut-être ne connaissent pas encore ses textes. Le contraste étonnant entre le propos qui est celui de Michel Foucault, qui est véritablement d'ouvrir sur une altérité, de faire à l'Occident et de revenir sur les blessures justement qu'une pensée de l'altérité peut infliger à une pensée occidentale sûre de son fait. Et encore une fois, la voix, j'allais dire, follement rationnelle, follement classique, la présentation dont il entoure son propos. Comment penser ce contraste dans le travail même de Michel Foucault, contraste qu'on retrouve dans les textes eux-mêmes, dont la facture est extrêmement classique et dont le propos est constamment abyssal ou vertigineux.
Je crois que c'est le plaisir de lire Foucault et c'est sa richesse aujourd'hui. Dans l'extrait qui a été passé, alors la voix de Foucault a beaucoup changé aussi, mais elle reste très melkaïque jusqu'à la fin, jusqu'au cours au Collège de France dont on a les enregistrements à l'IMEC. Dans le passage qui a été passé, par exemple, ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'il y a en permanence ce balancement entre une référence aux archives, la Bastille, l'Hôpital Général, c'est-à-dire les sources, la précision des sources historiques, et puis cette idée que se dit dans ces archives quelque chose qui va au-delà d'une construction historique. Et c'est sur ce clivage permanent que je pense que la pensée de Foucault se construit dans les années 60. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des choses qui vont perduré dans les années 70. Par exemple, je regardais récemment le cours sur les anormaux, qui est le cours de 74 au Collège de France, qui reprend des thématiques qui avaient été ouvertes par l'histoire de la folie 13 ans auparavant. Et Foucault fait une sorte de généalogie des figures des anormaux et des peurs qui leur sont associées. Alors, il prend la typologie du monstre humain, le monstre naturel, la typologie de l'incorrigible, celui qu'on n'arrive pas à dresser, l'onaniste, le problème de la masturbation, etc. etc.
L'homosexuel également.
Bien sûr. Et dans le passage que vous avez passé tout à l'heure, on avait le même type de démarche. Qu'est-ce qu'on trouve à l'hôpital général? On trouve finalement à la fois des criminels, des chômeurs, des pauvres, des fous qui n'ont d'autre statut que celui de leur exclusion, dit-il, etc., etc. Alors, on est dans la démarche historique.
Et ce également qu'une société, que la société de l'époque tient pour fous en vertu des normes qui sont les siennes et qu'elle a indûment érigées comme valeurs absolues.
Bien sûr, les vagabonds, etc., etc. Et finalement, c'est toute cette petite populace non susceptible de catégorisation qu'on va enfermer pour pouvoir lui donner une image, un lieu et un nom. Je pense que la nomination et l'identification sont fondamentales dans cette espèce d'exclusion inclusive dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps qu'il dit ça, c'est-à-dire qu'en même temps que Foucault dit « qu'est-ce qu'on appelle fou au milieu du XVIIe siècle ?» à partir du milieu du XVIIe siècle, il y a tout le temps cette espèce de poussée interne chez Foucault qu'il pousse à dire il y a dans la folie quelque chose comme une parole sauvage, quelque chose qui ne rentre pas sous le coup de ce qu'il appellera plus tard l'ordre du discours, quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui nous tourmente, quelque chose qui nous inquiète et qui nous fascine. Et ça, on pourrait faire la liste dans les textes de Foucault, les livres, mais les textes périphériques aussi, de cette espèce de fascination pour ce qui ne se dit pas ou ce qui se nomme pas, et on en trouverait des quantités absolument infinies. C'est Pierre Rivière, le parricide aux heures roux, et Foucault dit on ne peut rester que silencieux devant ce parricide, on n'a rien à dire. C'est les infâmes dont il parlera en 1977, etc. etc. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on peut trouver des sources ou des lignages philosophiques à cette fascination que Foucault a. Il est évident, par exemple, qu'il y a toute une référence qui passe par Bataille, qui passe par Breton, qui passe par les surréalistes, parce que finalement, c'est aussi Foucault au lecteur de Nadja, par exemple. C'est Foucault reprenant l'idée de l'expérience cruciale ou l'expérience limite de la phénoménologie. Alors, on peut faire l'histoire de cette fascination-là. Et en même temps, il y a aussi quelque chose qui comptera beaucoup chez Foucault à la fin, mais retourné de manière différente, et qui est que on ne sort pas de l'histoire, c'est vrai, et finalement on ne reviendra pas au Moyen-Âge, et finalement la folie sauvage ou la folie libérée du carcan dans lequel la raison l'a enfermé, ça n'est pas une sorte de retour en arrière, mais il y a quand même cette idée qu'on peut briser les carcans de l'histoire, non pas en sortant de l'histoire, mais en changeant l'histoire, et ça donnera tout le Foucault de la fin, et cette réflexion sur le thème de ce qu'il appellera par contradiction, par différenciation avec cet autre terme qu'on avait cité tout à l'heure et qui est celui de l'altérité, l'autre du même, la folie comme autre de la raison, comme des raisons, ce qu'il appellera comme une différence.
Mais justement, alors, sur cette question de la différence, Judith Revel, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction chez Foucault, plus encore qu'une contradiction entre l'exposé, la façon rigoureuse dont les choses sont présentées, et le propos qui en lui-même ouvre justement sur une véritable folie, ou la possibilité d'une véritable folie? Est-ce qu'il n'y a pas chez Foucault une contradiction dans le fait que, finalement, il reproche à Descartes d'altériser la folie, si j'ose dire, d'en faire un autre, de ne pas envisager la possibilité de la folie en elle-même. De ce point de vue, d'ailleurs, Kant, qui pensera la possibilité pour la raison de devenir folle, de devenir ivre d'elle-même, constitue une véritable valeur ajoutée par rapport à Descartes. Mais il fait à Descartes donc ce reproche de mettre la folie de côté. Mais en même temps, est-ce que Foucault, malgré tout, malgré les professions de foi qui sont les siennes, en un sens, ne perdure pas, enfin ne maintient pas ce geste-là par un rapport de fascination, mais un rapport de fascination qui demeure un rapport, j'allais dire, de distinction. En gros, Foucault sait que lui-même n'est pas fou. Il sait en un sens qu'il ne faut pas être fou pour envisager la possibilité, pour la raison, d'être folle. Foucault, est-ce que finalement Foucault n'est pas assez fou? Est-ce qu'il ne manque pas à Foucault le grain de folie qu'il semble appeler de ses voeux et au nom duquel il combat le cartésianisme?
Alors, c'est vrai, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, sur Descartes, je pense qu'il y a deux niveaux de discours chez Foucault. Le premier consiste à dire effectivement que Descartes a le premier assit le privilège absolu de la raison, qui passe par le privilège aussi de pouvoir parler de son propre dehors, c'est-à-dire de la folie. Et donc que Descartes a altérisé la folie. Mais il y a aussi l'idée que Descartes a évacué la folie. C'est-à-dire que finalement, dans l'économie du texte de la première méditation que l'on entendait tout à l'heure, le passage sur la folie est très rapide et on passe immédiatement à l'argument du rêve et puis à l'argument du malin génie. Et finalement, Foucault dit, c'est comme si Descartes avait, au lieu de contourner l'obstacle, avait évacué purement et simplement l'obstacle, parce qu'en réalité, il ne peut pas l'évacuer radicalement. Donc, il n'en parle pas, il passe à autre chose, parce que la folie est menaçante. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, Foucault, pas assez fou pour parler de la folie.
En somme, parce que c'est oui. L'ambiguïté sur laquelle on va travailler toute la semaine.
Bien sûr.
Et en particulier avec Artaud demain, d'ailleurs. On ne sait jamais avec Artaud s'il regrette de ne pas être assez fou pour en voir davantage, ou si au contraire il regrette de l'être déjà trop et du coup d'être incapable de restituer tout ce qu'il a vu. Est-ce qu'au fond, comme la figure de Nietzsche, dans les six derniers mois de sa vie, pond 4 chefs-d'œuvre, mais il les écrit parce qu'il est encore assez lucide pour restituer ce qu'il voit, avant de basculer dans une folie qui n'a plus que la ressource de l'aphasie.
Oui, mais je pense que on en revient, et du coup, je pense que il peut être intéressant d'en parler, à la polémique entre Foucault et Derrida. Parce que finalement, alors, très, très brièvement, Derrida a fait une conférence à l'invitation de Jean Val en 63, qui a été reprise après dans L'écriture et la différence en 67, qui s'appelle Cogito, histoire de la folie, où il reproche à Foucault précisément la prétention à vouloir faire une histoire d'avant l'histoire, ou rendre compte de quelque chose qui serait existant avant l'histoire, c'est-à-dire avant même la possibilité de l'écriture. L'histoire, c'est l'écriture. Hein. Et finalement, il dit à Foucault, vous jouez sur les deux tableaux, au-delà de la polémique strictement cartésienne sur l'interprétation de la première méditation, vous jouez sur les deux tableaux parce que vous vous présentez comme un historien des systèmes de pensée, et en même temps, vous dites en permanence le dehors de votre propre discours. Et vous ne pouvez pas être des deux côtés à la fois. Et ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, qui est un thème qui va être très présent chez Derrida, c'est le thème de la parole soufflée. Enfin, quand vous parliez d'Artaud, c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on peut rendre compte d'une parole de folie, sinon dans les termes de la raison elle-même ? Comment est-ce qu'on peut écrire la folie, sinon dans les termes de la raison elle-même, à moins de faire cet autre exercice littéraire, enfin d'écriture, qu'est la littérature ou la poésie ?
Je conteste ce qui est admis d'ordinaire, que les progrès de la médecine pourront bien faire disparaître la maladie mentale comme la lèpre et la tuberculose, mais qu'une chose demeurera, qui est le rapport de l'homme à ses fantasmes, à son impossible, à sa douleur sans corps, à sa carcasse de nuit. Que le pathologique, une fois mis hors circuit, la sombre appartenance de l'homme à la folie sera la mémoire sans âge d'un mal effacé dans sa forme de maladie, mais s'obstinant comme malheur. À dire vrai, cette idée suppose inaltérable ce qui, sans doute, est le plus précaire, beaucoup plus précaire que les constances du pathologique, le rapport d'une culture à cela même qu'elle exclut, et plus précisément, le rapport de la nôtre à cette vérité de soi-même, lointaine et inverse, qu'elle découvre et recouvre dans la folie.
Maman est folle, on n'y peut rien, mais je veux pas qu'on la vole ou qu'on l'emmène au loin.
Judith Revel est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour parler de folie chez Foucault dans le cadre d'une semaine que les chemins consacrent à la folie. Il faut aller, pour parler de Foucault, évidemment, ne rien omettre, c'est difficile en 50 minutes, mais après avoir réfléchi un peu sur cet exil de la folie, finalement, cet exil cartésien de la folie, cette façon qu'a Descartes d'exiler la folie, autour de l'idée que peut-être l'homme peut-il être fou, mais la pensée, elle, ne peut pas être insensée, ça c'est l'idée de Descartes. La possibilité donc pour la pensée d'être insensée permet à Foucault d'ouvrir des considérations sur la folie qui à la fois reprennent le privilège, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on va y revenir maintenant, reprennent ce qu'on pouvait dire de la folie au Moyen-Âge ou à la Renaissance, et qu'on a reproché d'ailleurs à Foucault de rappeler, hein, à savoir le fol en Dieu, le privilège du fou, finalement le fou comme dépositaire d'une vérité dont la raison nous prive, et en même temps la possibilité d'une folie littéraire Descartes. Foucault, à cet égard d'ailleurs, se sert notamment du neveu de Rameau, Judith Revel.
Oui, je crois qu'en fait ce qui est très particulier à Foucault et ce qui finalement le sauve assez rapidement des reproches auxquels qu'on lui adresse, c'est le fait que plutôt que de penser qu'est-ce que c'est qu'une pensée insensée, ce qui l'enfermerait en réalité dans quelque chose qui est une variante du cartésianisme et on s'en sort pas, Foucault très rapidement se pose le problème du langage. Alors c'est un peu explicable par les années 60, puisque tout le monde s'intéresse au langage à l'époque. C'est aussi l'idée que finalement, la seule possibilité de sortir de ce carcan de la raison moderne, c'est de travailler non pas sur les mots eux-mêmes, qui sont ce qu'ils sont et qui existent, mais sur la codification des mots, sur la structure qui lie ensemble ou qui construit ensemble du langage. Alors je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que...
Il y a un langage qui manifeste une part non soluble d'altérité en nous.
Exactement. Alors c'est des choses qu'on peut retrouver ailleurs, c'est des choses qu'on retrouve chez Lacan, l'idée de que l'inconscient est constructuré comme un langage, non pas le langage comme on le croyait, mais un langage. Ce qui veut dire qu'il y a une variation possible des structures linguistiques. Mais c'est aussi chez Foucault... l'idée que dans une certaine expérience de la littérature, il y a des gens qui non pas utilisent des mots bizarres ou étranges, parce que sinon on est dans le cas de la chimère de Descartes, c'est-à-dire qu'on fait du bizarre avec ce qu'on a sous la main et qui est déjà là. Et le déjà là est déjà à l'intérieur du champ rationnel, en réalité. Non, le problème c'est un autre, le problème c'est de lier autrement les éléments qui sont déjà là. Et le problème de la structure, c'est quelque chose qui va, chez Foucault, lui permettre une autre approche de la littérature, parce que finalement les littérateurs qui l'intéressent, sont tous des gens qui travaillent sur le code et qui déconstruisent le code. C'est le cas de Roussel, par exemple, qui est le livre...
Comment j'ai écrit certains de mes livres, oui.
Auquel Foucault s'intéresse.
Foucault fait grand cas de Roussel.
Et c'est absolument passionnant parce que Foucault dit, finalement, c'est une structure de labyrinthe. C'est quelqu'un qui dit, dans Comment j'ai écrit certains de mes livres, je vais vous livrer le secret de mon travail. Et Foucault dit, plus ça avance et moins on comprend. C'est-à-dire que finalement, il nous donne la clé et plus on utilise la clé, plus la porte est verrouillée. Alors, c'est une idée assez formidable. Mais finalement, cette matrice-là, cette espèce de construction roussélienne qui va appliquer après à Nerval, qui va appliquer à Sade, qui va appliquer à Kafka, qui va appliquer à toute une série de gens. Et finalement, c'est aussi une manière de dire « prenez mon œuvre comme cela, j'ai une voix métallique ». Et pourtant, plus je parle métalliquement et plus je verrouille ma pensée.
Et plus ce que je dis est souple également.
Bien sûr.
Alors, quand il parle de Roussel, il dit, la forme du livre de Roussel, solennellement ultime, le soin avec lequel elle a été tout au long retardée pour venir à échéance au moment de la mort, transforme en énigme le procédé qu'elle met au jour. Mais alors, laissons Roussel de côté, Judith Revel, puisque le temps presse. Venons-en au neveu de Rameau, à la place très importante que Foucault fait au neveu de Rameau de Diderot, la figure du neveu de Rameau, comme véritablement, alors là, pour le coup, l'interprète de cette altération possible, cette altération littéraire, cette façon qu'a la littérature de restituer, plus que la philosophie, peut-être bardée de concepts, cette façon qu'a la littérature de restituer l'altération propre à chaque individu à travers la figure bigarrée, le costume d'Arlequin que constitue le neveu de Rameau. On va entendre un texte de Michel Foucault sur le neveu de Rameau, lu par Nicolas Vaude, dont la voix folle nous accompagne toute la semaine et qui d'ailleurs campe lui-même un excellent neveu de Rameau. Écoutez.
Le personnage du fou fait sa réapparition dans le Neveu de Rameau. Une réapparition en forme de bouffonnerie. Comme le bouffon du Moyen Âge, il vit au milieu des formes de la raison, un peu en marge sans doute, puisqu'il n'est point comme les autres, mais intégré pourtant, puisqu'il est là comme une chose, à la disposition des gens raisonnables, propriété qu'on se montre et qu'on se transmet. On le possède comme un objet. Mais aussitôt lui-même dénonce l'équivoque de cette possession. Car s'il est pour la raison objet d'appropriation, c'est qu'il est pour elle objet de besoin. Besoin qui touche au contenu même et au sens de son existence. Sans le fou, la raison serait privée de sa réalité. Elle serait monotonie vide, ennui d'elle-même, désert animal qui lui rendrait présente sa propre contradiction. Maintenant qu'ils ne m'ont plus, que font-ils? Ils s'ennuient comme des chiens. Mais une raison qui n'est elle-même que dans la possession de la folie cesse de pouvoir se définir par l'immédiate identité avec soi et s'aliène dans cette appartenance. Celui qui serait sage n'aurait point de fou. Celui donc qui est un fou n'est pas sage. S'il n'est pas sage, il est fou. Et peut-être fut-il roi, le fou de son fou. La déraison devient la raison de la raison, dans la mesure même où la raison ne la reconnaît que sur le mode de l'avoir.
Mais une nouvelle harmonie annonce apparemment Terpsichore.
Vous vous trompez, mon ami. Non, non.
Que vois-je au ciel?
C'est moi. C'est la folie qui vient de dérober la lyre d'Apollon.
Oui, du Jean-Philippe Rameau, ça s'impose évidemment pour sortir d'un éloge de son neveu par Michel Foucault. Et Judith Revel, qui est notre invitée pour parler donc de Michel Foucault et de l'histoire de la folie à l'âge classique. Deux éléments peut-être dans ce commentaire que Michel Foucault propose du neveu de Rameau. D'abord, la position sociale du neveu de Rameau, qui est le fou des maisons, c'est un des domestiques, il appartient aux maisons cossues au titre de bouffon. Donc il est vraiment, alors là, comme le fou de Foucault, exclu parce qu'intégré. Intégré comme l'exclu, intégré comme l'altérité contrôlable, un peu comme l'esclave de Plotin enchaîné dans des chaînes en or. C'est la métaphore dont Plotin se sert pour parler du mal. Ça, c'est la première remarque. Et puis, la deuxième remarque, l'usage que fait Rameau de sa propre raison. Rameau ne cesse de fonctionner par syllogisme pour railler justement la raison du philosophe. Et Foucault commente en disant « La déraison devient la raison de la raison. De fait, celui qui serait sage n'aurait point de fou. Celui donc qui a un fou n'est pas sage. S'il n'est pas sage, il est fou. » C'est un syllogisme, et pourtant, c'est la parole du fou. Est-ce qu'il n'y a pas, cette fois-ci, non plus une intégration de la folie dans les cadres de la raison, mais au contraire, une utilisation de la raison par le fou lui-même, Judith Revel?
Oui, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, sur la fonction sociale du fou, dans le fou des maisons, comme vous le rappeliez très, très justement, je pense que c'est à la fois vrai, et en même temps, par exemple, on mesure toute la distance qu'il peut y avoir à citer le fou des maisons au XVIIIe siècle et la figure du bouffon, telle qu'elle pouvait être conçue à la fin du Moyen-Âge ou au début de la Renaissance. Parce que finalement, c'est un fou qui a une place et donc qui est inclus et contrôlé, mais qui n'a plus aucune valeur de vérité. Il n'a plus de parole de vérité. Donc, c'est un fou domestique. Voilà. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'à faire jouer le syllogisme en question, on aboutit à une sorte de réversibilité qui fait que la folie devient celle qui peut s'arroger le pouvoir de parler de la raison et non plus le contraire. Et en même temps, c'est formidablement ambigu parce que
ça n'est pas un rapport de pouvoir contre pouvoir, au fond.
Exactement. Et finalement, on retourne le rapport de pouvoir, mais on reste dans quelque chose qui est de l'ordre d'une dialectique sans fin entre la raison et son autre.
Mais que recherche Foucault quand il parle de la folie, sinon un renversement, justement, des termes même de la dialectique qu'il pose? Est-ce que finalement Foucault n'en appelle pas, en un sens, comme si la folie était le ciment de la raison? Je crois même que c'est une expression de lui.
Oui, et en même temps, je pense que si on en reste là, ça veut dire que au mieux, la folie peut retourner ou renverser son autre et devenir l'autre de l'autre et prendre une position qui est une position dominante. Mais finalement, dans l'histoire, ça s'est passé à maintes reprises, ces décalages ou ces translations de pouvoir ou de privilèges épistémologiques. mais on reste dans la même structure. Alors moi, je pense que chez Foucault, quand il dit restituer la folie à elle-même, ou quand il parle de folie sauvage, il y a cette idée d'une extériorité qui sortirait de cette structure dialectique entre folie et déraison. Finalement, quand il parle des expériences littéraires, par exemple, parce que ce sont celles-là qu'il a en tête, il se dit « on n'est plus dans l'ordre d'un renvoi de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un ». Parce qu'un contre-pouvoir, ça n'est jamais qu'un autre pouvoir. Et que c'est ça le vrai enjeu. Quand il lit Roussel, ou quand il lit Artaud, ou quand il lit Brisset ou Wolfson, on n'est plus dans l'ordre du pouvoir. On est dans la différence absolue. Il n'y a plus de, renvoi possible. Alors, à quelles conditions cette expérience-là, sans renvoi possible, est-elle précisément possible?
Oui, parce que, pardon, mais il reste un langage, il reste des phrases parfaitement structurées, il reste un art et parfaitement rigoureux et consommé. Alors,
oui.
Chez Artaud, oui. Peut-être qu'il y a un moment où le langage dévisse, hein, comme chez Joyce ou comme chez d'autres, mais il y a quand même l'utilisation d'un langage qui obéit à des codes.
Oui, oui et non, parce que... alors, oui, bien sûr. Bien sûr, et je pense qu'il y a un romantisme de cette idée de la folie du dehors, etc., etc. Et Foucault est influencé à la fois, encore une fois, par Bataille, mais par exemple, beaucoup par Blanchot, qui à l'époque...
Mais Bataille, il est très didactique. Hein.
Oui, mais en même temps, il y a l'idée chez Bataille encore d'une transgression. Et il y a encore l'idée d'un renvoi dialectique entre la transgression et la limite, et la transgression et la transgression de la limite. Et la limite est ce qui confirme la transgression dans son œuvre de transgression et à l'infini. Donc on est encore dans un rapport dialectique. Chez Blanchot, c'est déjà plus compliqué. Et finalement, ce qui fascine Foucault et ce qui va le pousser à se concentrer de plus en plus sur des écritures ou des littératures qui sont liées à la schizophrénie, à l'écriture psychotique ou à la parole psychotique. Et encore une fois, il n'est pas le seul. Hein, c'est très constant chez Deleuze à la même époque. C'est l'idée que chez les psychotiques est à l'œuvre quelque chose qui est de l'ordre de la déconstruction du code. Alors le problème, c'est qu'est-ce qui, dans l'expérience de l'écriture psychotique, et Brisset est psychotique, Grammairien est psychotique, et Wolfson est psychotique, etc., etc. Qu'est-ce qui reste du sujet? Qu'est-ce qui reste d'un projet?
Et oui, jusqu'où peut-on aller trop loin dans cet éloge, justement, de la psychose? Artaud écrit au tout début de Van Gogh, de son livre sur Van Gogh, Artaud dont on va parler demain, plus spécifiquement, il écrit ceci, c'est la fin de la première page de son livre sur Van Gogh, il dit « Une société tarée a inventé la psychiatrie pour se défendre des investigations de certaines lucidités supérieures dont les facultés de divination la gênaient. » Alors, on a envie de dire évidemment « Pourquoi pas ?» Il n'y aurait pas de littérature ni de poésie si certains humains, peut-être plus lucides que d'autres, d'une lucidité divinatoire, n'étaient pas capables de percevoir et de restituer ce que d'autres sont incapables de voir, prisonniers qu'ils sont de la routine, ou bien tout simplement du préjugé que, parce qu'ils sont rationnels, ils ne peuvent pas être fous. Mais est-ce qu'il n'y a pas en même temps, est-ce qu'on ne peut pas retourner cet argument et dire que finalement, à la suite de Michel Foucault, il serait fou de considérer, par exemple, que, je ne sais pas moi, si on supprimait les asiles, on supprimerait la folie par la même. Qu'au fond, la folie serait presque une invention de la psychiatrie, de la même façon qu'elle serait réduite à la déraison par Descartes. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, là encore, de renverser l'argument de Foucault en disant, mais écoutez, en gros, ceux qui, à la suite de Foucault, ont pu dire « la folie est une invention de l'asile », un effet de l'asile, est-ce que cet argument-là n'est pas pour le coup excessif?
Oui et non.
Alors, c'est l'argument d'Artaud.
Bien sûr. Il y a plusieurs choses. Je pense que dans la position d'Artaud, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'Artaud se réfère à un individu, toujours. Quand il y a des individus supérieurs, et moi-même, j'ai, en tant qu'Antonin Artaud, une expérience qui est de type, etc., etc., etc. Chez Foucault, et pour de multiples raisons, mais parce qu'on est dans le contexte des années 60, et donc dans un contexte général de critique radicale du sujet, c'est la mort de l'homme, etc., etc. Ça n'intéresse absolument pas Foucault. Il y a un texte formidable qui s'appelle « Rousseau juge de Jean-Jacques ». On parlait tout à l'heure de Diderot, là on parle de Rousseau. Où Foucault dit « ça n'est pas un auteur qui est délirant, c'est une œuvre qui est délirée ». C'est pas celui qui écrit qui est intéressant, c'est ce qu'il produit qui est intéressant. C'est la forme même du langage. Alors, le problème de l'individu, c'est pas quelque chose dont Foucault... parle dans les années 60, il le fera plus tard, je pense. Sur la folie comme production de l'asile, Oui, bien sûr que c'est excessif. Et en même temps...
Au sens, que reste-t-il toujours chez Foucault? Que reste-t-il de l'objectivité elle-même? C'est-à-dire d'une folie pathologique, clinique, caractérisée. Quelle place fait-il à, à ce discours-là sur la folie?
Foucault a souvent, et d'ailleurs de manière assez contradictoire, parce qu'il n'en faisait pas partie, ça a été un regard qui a faussé en partie ses propos, mais il a souvent été associé à l'antipsychiatrie. Et c'est vrai que dans les expérimentations qui sont faites à la même époque par Lin et par Cooper, dans le discours de Goffman, Asylum et 61, la même année que l'histoire de la folie, dans les tentatives de Franco Basaglia en Italie d'ouvrir les asiles ou de détruire la structure même des asiles d'enfermement qui existaient à l'époque, il y a cette idée qu'on peut créer des lieux qui ne soient plus ou qui ne correspondent plus aux vieilles institutions enfermantes qui contraignaient les fous physiquement et spatialement à l'enfermement. Alors, il y a les antipsychiatres n'ont pas renoncé à la thérapie, par exemple. Ils ont simplement modifié la structure même de l'institution.
Ils ont modifié la structure même de l'institution.
Ils n'ont pas nié la réalité de la pathologie, du mal-être et de la souffrance. Ils ont simplement dit que ça n'est pas en enfermant, en désignant et en nommant, c'est-à-dire en identifiant ou en objectivant, qu'on pouvait construire des parcours thérapeutiques. Et qu'il fallait peut-être tenter le contraire, c'est-à-dire des parcours non pas d'objectivation, je te nomme et je t'identifie dans ta différence, mais des parcours de subjectivation. Comment est-ce que je peux faire en sorte que quelqu'un qui vit une réalité de souffrance psychiatrique puisse recommencer à se construire comme sujet? Et c'est un point de vue qui est assez différent. C'est ce que fait Félix Gadariel-Laborde, pour ne citer que des gens qui étaient proches de Foucault.
Et c'est une question qu'on posera demain également, en parlant d'Artaud justement, sûr, et de son séjour à l'asile, et des lettres de Rodez, qui sont un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre d'un homme qui justement fait l'expérience de sa folie et qui, par une grâce étonnante, est capable pourtant de la restituer. On va finir cette émission, Judith Revel, avec la voix de Michel Foucault lui-même et puis la voix de quelqu'un dont les mauvais esprits ou les bons esprits disent que, pour le meilleur, elle est folle. Je laisse les auditeurs juger.
Il me semble que c'est à la fin du XVIIIe siècle, pratiquement à l'époque de la Révolution, qu'on a posé ce grand principe que quelqu'un qui devait être mis en prison ne devait pas être mis à l'hôpital, et inversement, quelqu'un qui était mis dans un hôpital ne devait pas être traité comme un prisonnier. Et il me semble que le partage s'est fait dans un contexte politique et historique très précis, lorsque la grande politique confuse de l'internement a été remise en question à partir de 1789, pour des raisons politiques évidentes. La prise de la Bastille n'est en somme que l'un des épisodes dans cette grande mise en question de la politique d'internement qui avait été la politique policière de tout l'Ancien Régime. Autrement dit, l'internement a cessé de valoir pour les prisonniers politiques et pour tout un tas de délinquants mineurs, et la politique de l'internement a été appliquée aux seuls fous à partir de 1792-1793.
Folle de tristesse et de rage, mangeant la merde et le cirage. Folle de terreur et d'horreur, je vomis mon foie et mon cœur. Cloîtré dans l'éternel taudis, entre ces murs que je maudis, je tourne comme une toupie. Sur quelques logs, je suis.
Merci infiniment, Judith Revel, d'être venue nous voir. Je rappelle l'existence du dictionnaire Foucault, dont vous êtes l'auteur très utile, paru chez Ellipse, qui est une excellente boussole dans l'œuvre monumentale de Michel Foucault. Je signale également, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas ou très peu lu les travaux de Michel Foucault, deux anthologies excellentes, l'une et l'autre, l'abécédaire de Michel Foucault aux éditions Sils Maria, sous la direction de Stéphane Leclerc, et l'anthologie de ses textes philosophiques disponibles en folio, sous la direction d'Arnold Davidson et de l'ami Frédéric Gros.
Eh bien oui, telle est ma folie. Brigitte est folle, hi, hi, hi. Que c'est drôle, que c'est joli. Dans les plumes de canaris, les feux follets et les rubis.
Brigitte Fontaine est folle, c'est elle qui le dit. Il est 10h49, bientôt 10h50 sur France Culture. On change de registre et on retrouve avec chaque matin le même plaisir, le journal des nouveaux chemins de la connaissance. Et Adèle Van Rett, bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Après la folie, la liberté.
Oui, bonjour à tous. On ne quitte pas vraiment l'univers de la folie puisqu'on reste dans le domaine de ce qu'on nomme l'irrationnel, c'est-à-dire tout ce qui n'appartient pas au domaine de l'ordre, des nombres, du calcul, mais qui conduit vers le désordre autant que vers le désir, la folie des grandeurs et surtout le besoin de créer à partir du réel. Cet univers, c'est le créalisme, c'est-à-dire un concept qui part du constat que l'homme aspire autant à l'ordre qu'au désordre, au contrôle qu'à la démesure, et qui, à partir de ce constat, encourage à adopter une démarche de création vis-à-vis du réel. Ce drôle de concept qu'est le créalisme a été inventé par Louise de Miranda, philosophe et romancier, dont le dernier livre, « L'art d'être libre au temps des automates », sort cette semaine aux éditions Max Milo. Bonjour Louise de Miranda.
Bonjour.
Alors le titre de votre essai, donc « L'art d'être libre au temps des automates », résume à lui seul la démarche qui est la vôtre et qui peut se résumer en une question. Comment être ou devenir libre dans une société qui semble de plus en plus guidée et régie par les ordinateurs, les robots, toutes ces instances qui calculent et qui ordonnent, Louise de Miranda.
C'est ça. Ça part d'une tentative de redéfinir la liberté à une époque où, paradoxalement, on a l'impression de n'avoir jamais été aussi libre à travers tous les choix, puisqu'on peut même dire que le postmodernisme, c'est la découverte par les masses de la faculté de choisir. Et à côté, on ne peut nier que se développe depuis une cinquantaine d'années ce que j'ai appelé le numérisme, c'est-à-dire une hyper-ordination de notre espace social avec le développement des computers, puisque je préfère les appeler comme ça. Pour la bonne raison que le mot ordinateur a été introduit par IBM France en 1955 à partir d'un mot qui appartient à l'Église catholique et qui signifiait le pouvoir de l'évêque d'ordonner son territoire, de nommer ses prêtres. Et donc finalement, c'est ce que je dis dans le livre et c'est le point de départ. Les ordinateurs, c'est nous. Jamais une machine n'a construit un ordre.
Voilà, vous dites la vraie réponse à la question « Qui suis-je ?» c'est « Je suis, vous êtes, nous sommes des ordinateurs créalistes. »
C'est ça. Donc une dialectique finalement. C'est-à-dire une dialectique entre notre capacité de créer des ordres qui nous définit presque en tant qu'être humain, créer des ordres, et une aspiration nécessaire à la vie, à l'écart, à ce que Deleuze appelait la rupture. Et donc cet équilibre entre l'ordination et l'appel d'air de la vie nous constitue.
Et donc c'est le but de ce courant que vous avez créé, qui s'appelle le créalisme, que d'insister sur cette partie plus libre de notre être, en opposition à la partie qui serait, elle, ce que vous appelez le numéros, et donc qui consiste, elle, dans la recherche et la quête d'ordre. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre ?
C'est un double rappel. C'est effectivement de se rappeler de notre part d'éros, c'est-à-dire une vigilance vis-à-vis des codes, des codages, mais c'est aussi se rappeler que le codage nous appartient et que nous créons sans cesse le réel à partir de cette inspiration vitale et de la nécessité de créer des structures, puisque l'homme ne peut pas vivre sans structure. Et là, on rejoint le thème du basculement dans la folie.
Dans la folie, justement. Bon lien avec le thème de la semaine. Est-ce que ça veut dire que la relation de l'homme à l'ordinateur et à cette volonté de contrôle et d'ordre est dangereuse en elle-même, ou est-ce que ça veut dire qu'il est important de considérer cette dimension de l'homme, mais ne pas le faire à l'exclusion de sa dimension de liberté ? Ce que vous essayez de faire, c'est de maintenir un équilibre entre les deux, finalement.
Ça, la liberté, je ne la définis pas comme une fuite, mais comme justement cette capacité de créer des ordres. De créer des ordres tout en respectant la nécessité du lien à la vie, cette espèce justement de nécessité du désordre, et donc d'être dans cet équilibre, dans cette ligne de fêlure entre ces deux tendances.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce créalisme, cet appel à la création dans la vie ? Est-ce que vous parlez de création artistique ou est-ce que c'est une posture, une attitude face à la vie qui consiste à considérer la vie comme étant un champ de création qu'il s'agirait de ressaisir et de réinventer ?
Je dirais que le créalisme est à la fois un état d'esprit et un moment historique. Un état d'esprit qui se produit chaque fois qu'en nous, le déclic de comprendre que ce n'est pas parce que quelque chose a été ainsi hier que cela sera ainsi demain, et un moment historique en tant que paradigme qui vient après le postmodernisme, après donc la fin des grands récits, après donc ce moment où on a eu l'impression d'un nivellement horizontal de toutes les valeurs. Et donc, le créalisme repose sur aussi cette lucidité actuelle qui consiste à voir que le monde est notre création et que la Terre doit être notre œuvre d'art. Alors, ce n'est pas une révélation. Ça fait longtemps que cette intuition court dans l'histoire. Les Grecs appelaient la relation de l'homme avec son environnement, une relation donc, créatrice du réel. Ils l'appelaient le poème du monde. Mais, en tout cas, c'est une prise de conscience qui, aujourd'hui, est collective. Et c'est le retour de ce vieux mot, ce beau mot français qu'on appelait la capacitation.
C'est-à-dire,
c'est ce que les Anglais appellent l'empowerment, c'est-à-dire cette capacité de l'humain à créer le réel à partir de sa décision et d'une position qui est d'abord imaginative et d'abord spirituelle.
Je renvoie les auditeurs à beaucoup de choses, à beaucoup de livres que vous avez écrits avant ça. Peut-on jouir du capitalisme et une nouvelle vie est-elle possible ? Également au site du Créel, donc ce mouvement que vous avez créé, qui est disponible en ligne et vous trouvez toutes ces informations.
Et au manifeste.
Et au manifeste du créalisme qu'on trouve aussi à la fin donc, de cet essai qui sort cette semaine, L'art d'être libre au temps des automates, qu'on trouve aux éditions Max Milo.
C'est noté, merci Adèle. Sinon, sur les étals.
Alors la pièce, non pas sur les étals, mais sur scène, la pièce de chant et texte de Boris Vian, Juste le temps de vivre, se donne en ce moment à Paris, après une tournée dans de nombreuses villes de province qui a connu un grand succès. La mise en scène est de Jean-Louis Jacopin, par ailleurs comédien et dont la voix nous accompagne de temps en temps au Nouveau Chemin, qu'on a pu entendre notamment l'an dernier lors d'une semaine sur l'absurde, où l'on avait découvert sa vianophilie jubilatoire et créative, ce qui laisse présager une mise en scène de très bonne qualité. C'est donc Juste le temps de vivre, une pièce de Boris Vian, que l'on peut voir jusqu'au 28 février au Théâtre du Lucernaire, tous les jours à 18h30. Et bien sûr, rendez-vous sur le site des Nouveaux Chemins pour toutes les informations sur ce spectacle.
Merci à tous. Vive l'ami Jean-Louis Jacopin. Foucault, Descartes, la folie, la liberté, le paradigme nouveau du créalisme, c'était le programme des Nouveaux Chemins aujourd'hui. Une émission que vous pourrez retrouver comme toutes les émissions de la semaine, les émissions à venir sur notre site internet, on ne le dira jamais assez, à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance où vous attendent évidemment téléchargement, écoute en ligne et indications bibliographiques. Suite demain dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance de cette semaine sur la folie. Après Foucault, on l'a dit, c'est d'Antonin Artaud qu'il sera question. La folie de l'écrivain, c'était pour les autres. La chance de voir naître, renaître sans cesse dans les découragements de la répétition et de la maladie. La vérité de l'œuvre, disait Foucault en pensant à Artaud. Rendez-vous demain donc de 10h à 11h pour faire ensemble l'expérience d'une altérité où se joue peut-être l'essentiel. Un grand merci enfin à Nicolas Vaud, acteur et lecteur exceptionnel dont la voix nous accompagnera toute la semaine. Et un salut particulier à Camille Lugan, qui vient de rejoindre l'équipe des Nouveaux Chemins et qui signe son arrivée par un double travail, deux fois excellent sur Erasme et Artaud. Bonjour Camille et bienvenue. France Culture, 10h59. Dans un instant, question d'époque.